Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale s'intéresse à la désertification. Et qui de mieux pour nous en parler que Luc Nyakadja, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le problème de la dégradation des terres dans les régions arides reste une préoccupation majeure pour la communauté internationale. Pour remédier à ce fléau trop souvent occulté, les Nations Unies se sont donc dotées de plusieurs outils. Outre la fameuse convention conclue dans la foulée de la conférence de Rio en 1992, il existe actuellement un plan stratégique décennal et même une décennie qui court jusqu'en 2020. Autant d'atouts sur lesquels revient Luc Nyakadja, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, et ce à l'avant-veille de la Journée internationale de lutte contre la désertification, célébrée chaque année le 17 juin.
20 ans après Rio, je peux dire que les chefs d'État et de gouvernement qui sont réunis l'année dernière à Rio ont donné encore plus de sens à l'impératif de la lutte contre la dégradation des terres et la désertification et l'impératif de réduire les effets des sécheresses. Pourquoi ? Parce que dans le futur que nous voulons, qui sera le futur dans lequel nous aurions investi, dans ce futur que nous voulons, dans le paragraphe 206 en particulier, les chefs d'État et de gouvernement ont appelé l'ensemble de la communauté internationale et de tous les acteurs à s'engager à neutraliser la dégradation des terres. Ce qui signifie en particulier, à faire deux choses, à éviter de dégrader les terres et à faire en sorte que pour chaque dégradation inévitable, que l'on s'emploie à régénérer, à restaurer des terres déjà dégradées. C'est un changement de paradigme. Cet engagement politique, maintenant est venu le moment de le traduire. Il ne faut pas que ça demeure un vœu pieux. Il faut le traduire aujourd'hui dans les processus intergouvernementaux en cours, à la fois pour les objectifs de développement durable, mais aussi pour définir un cadre de développement global que l'on appelle post-2015, pour donner un lendemain aux objectifs du millénaire sur le développement. Mais il faudra aussi traduire cela dans l'accord qui est en cours de négociation dans le cadre du changement climatique et aussi traduire cela dans le cadre des investissements nécessaires pour le développement durable. Un aspect particulier qui m'importe est celui de la suite à donner aux objectifs du millénaire pour le développement. Que pouvons-nous retenir des succès et des échecs, quoique nous ne sommes pas encore en 2015, mais 2015 c'est après-demain. Que pouvons-nous retenir des échecs et des succès en matière de réduction de la pauvreté et de sécurité alimentaire? D'abord, que les pauvres sont largement en milieu rural, de la même façon que sont largement en milieu rural ceux qui mangent qu'une fois par jour. Qu'ils sont pauvres et ils n'arrivent pas à se suffire en matière de sécurité alimentaire parce que leurs terres sont dégradées. Si nous voulons, dans les deux prochaines décennies à venir, faire en sorte que l'on sorte ces personnes-là de la pauvreté de façon effective et qu'on leur assure la sécurité alimentaire et aussi celle de l'eau, il va falloir investir sur leur capital. Le capital qu'ils ont, pour la plupart d'entre eux, c'est la terre. La terre est dégradée. Mais nous savons qu'une terre dégradée peut être régénérée. Donc il faudra que la communauté internationale, en termes de cadre global de réduction de la pauvreté et de sécurité alimentaire, s'accorde à investir dans le capital des pauvres. Nous sortons de la seconde conférence scientifique de la Convention des Nations Unies sur la désertification qui a eu lieu à Bonn en Allemagne. Et cette conférence a porté sur le coût de l'action par rapport au coût de l'inaction en matière de dégradation des terres et de gestion durable des terres. L'évaluation démontre que, d'une manière générale, la dégradation des terres coûte à la communauté internationale de l'ordre de 5% du PIB agricole. 5%. Et dans certains pays, comme au Burkina Faso, c'est 9%. Je rentre du Guatemala. Au Guatemala, la dégradation des terres coûte 24% du PIB agricole de ce pays-là. Parce qu'il s'agit d'érosion forte des terres agricoles dans ces pays-là. A contrario, quand on regarde combien ça coûte pour éviter cette dégradation, parfois c'est de l'ordre du cinquième de ce prix-là. Donc le coût de l'action est démontré bien que c'est un investissement parmi les investissements les plus productifs et les plus sages de notre temps. Surtout quand on sait que ces investissements-là, non seulement sont productifs en termes de réduction de la pauvreté, en termes de sécurité alimentaire, mais aussi en termes de croissance soutenue et inclusive. Parce que quand une terre est dégradée, ce qui signifie qu'elle perd surtout sa productivité et que la régénérer reviendrait à doubler, parfois à tripler sa productivité, ça revient non seulement à tripler le revenu des populations qui en dépendent, mais aussi à accroître durablement le PIB du pays concerné. D'où l'importance qu'il y a à investir dans la dégradation évitée et dans la restauration, la régénération des terres déjà dégradées. Aujourd'hui, la dégradation des terres a été évaluée à $700 par habitant dans le monde et par an, 490 milliards de dollars. Ça, c'est sur le coût direct. Quand on regarde le coût indirect, c'est beaucoup plus élevé. Mais quand on regarde maintenant le bénéfice qu'il y a à investir, on se rend bien compte que l'impératif que nous avons aujourd'hui, c'est d'amener les gouvernements à comprendre que ce n'est pas seulement le défi du ministre de l'Environnement, ni le défi seulement du ministre de l'Agriculture, mais que c'est aussi et surtout le défi de l'ensemble du gouvernement, de l'ensemble de la communauté nationale et au-delà de l'ensemble de la communauté internationale. De plus en plus d'acteurs du secteur privé le comprennent. Et j'ai vu au Guatemala un cimentier investir dans la restauration des terres dégradées parce que la biomasse ainsi produite lui permet de faire de la production d'énergie par cogénération. Ce qui lui revient meilleur marché que d'importer de l'énergie des États-Unis, par exemple. J'ai vu au Niger des paysans à travers ce que l'on a appelé la régénération naturelle assistée par les paysans. J'ai vu dans la zone de Zender, par exemple, effectivement, ce que les images satellitaires indiquaient déjà depuis le début des années 90, à savoir qu'aujourd'hui, plus de 5 millions d'hectares de terres initialement désertifiées ont été régénérées. Et que, comme me l'a dit une femme que j'ai rencontrée dans un village près de la ville de Maradi, elle m'a dit, vous savez, cher monsieur, avant, il y a à peine 15-20 ans, il me fallait marcher près d'une journée pour trouver de l'eau. Aujourd'hui, en moins d'une heure, je trouve de l'eau parce que la nappe phréatique a pu remonter de près de 14 mètres du fait des actions de régénération des terres. Voilà l'ampleur de l'impact de ce genre d'investissement. Donc, il nous faut plaider cela. Les paysans opèrent comme des investisseurs. Qui d'entre nous accepterait d'investir sur quelque chose qui ne lui appartient pas? Donc, la gouvernance du foncier, la gouvernance de la terre de manière plus intégrée devient essentielle.
Sur ces changements climatiques aujourd'hui, il y a des choses qui échappent à l'homme. Sur la dégradation des terres, on peut faire tout le travail que vous prônez. Sur le fond, comment aujourd'hui on peut faire en sorte que les gens sont convaincus que c'est à également eux de travailler, de prendre des initiatives, tout en sachant qu'il y a ce changement climatique qui dépasse par certains côtés, même s'il est créé par l'homme, qui dépasse l'homme?
Parfois, je me demande si, à force de parler de changement climatique, on n'en vient pas à oublier les manières les plus effectives d'y faire face. L'année dernière, on a parlé de la sécheresse dans le Midwest. Aujourd'hui, puisque nous sommes à New York, aujourd'hui, j'ai vu à la télé des cas préoccupants d'inondations dans le Midwest. Donc, ça veut dire que l'année dernière, ces terres-là ont connu la sécheresse. Et cette année, c'est l'inondation. Ça veut dire une accélération de l'érosion de ces terres-là. Et l'érosion fait quoi? Emporte la partie productive de la terre, à savoir les sols. Et à qui devons-nous, à quoi devons-nous cette accélération des chocs climatiques que sont sécheresse suivie d'inondations, de pluies diluviennes et d'inondations? Au réchauffement climatique. Et quelle est la solution à cela en termes de résilience des écosystèmes? La gestion durable des terres. Elle permet de prendre les dispositions pour que les écosystèmes résistent à ces chocs climatiques, en même temps que ça permet d'adapter les cultures et les écosystèmes aux dix chocs climatiques. Et quand on fait cette adaptation-là, quel en est l'un des bénéfices induits? C'est que l'on ramène le carbone organique dans les sols. Et c'est la meilleure façon de séquestrer le carbone, ramener de façon écologique le carbone dans les sols. Et cela va avoir des implications pour la sécurité alimentaire, cela va avoir des implications pour la disponibilité et la qualité de l'eau, y compris la reconstitution des aquifères, cela va avoir des implications, et j'en passe, sur la manière dont nous faisons face aux sécheresses. Il y a quelques mois, à Genève, la communauté internationale a conclu la première réunion de haut niveau sur la gestion des risques de sécheresse. La sécheresse, dois-je dire malheureusement, n'est pas aussi charismatique que les tsunamis et les tremblements de terre. Mais les sécheresses ont un coût socio-économique bien plus élevé que les coûts socio-économiques des tsunamis et des tremblements de terre. Et pourtant, le monde n'a pas encore appris à se préparer à faire face au risque de sécheresse. C'est cette réponse-là qui a été apportée le mois dernier à Genève, où les gouvernements ont décidé de faire en sorte que chaque pays sujet à des risques de sécheresse élabore, adopte et mette en œuvre des politiques publiques de gestion du risque de sécheresse qui doit comporter tout un arsenal de dispositions, y compris l'assurance dont les fermiers et les pastoralistes ont besoin pour faire face à un risque qui les dépasse, un risque auquel d'ailleurs ils ont bien peu contribué.
Alors, on va parler au présent, ou en tout cas au futur immédiat. Le 17 juin, chaque année, donc, un des grands instruments, des instruments importants qui existent, c'est une journée de sensibilisation. C'est donc la journée internationale sur la lutte contre la désertification. Quel est aujourd'hui le slogan que vous voulez retenir pour cette année? Quel est le message que cette journée veut porter?
Le message est un appel à tous les acteurs. Ne laissons pas notre futur s'assécher. Don't let our future dry up. Ne laissons pas notre futur s'assécher. Et ce futur-là dépendra de notre action d'aujourd'hui. Il ne faudra pas que nous démissionnons. Nous savons combien notre action, quel que soit l'endroit où nous soyons, nos investissements ont un impact sur les terres. Prenons l'exemple d'un pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Ils peuvent, oui, dire « nous n'avons pas de dégradation chez nous ». Mais la consommation allemande, la consommation anglaise génère de la dégradation ailleurs. De par ce qui est importé, de par la manière dont c'est importé, de par les règles du marché. Et si ceux qui consomment ne se sentent pas responsables, eh bien, c'est eux et leurs descendants qui vont faire face aux impacts généralisés, globalisés de ces comportements irresponsables, si je puis dire. D'où la nécessité pour nous d'avoir un cadre global d'engagement de tous les acteurs, les particuliers, les élèves, les étudiants, qu'ils interpellent leurs hommes politiques. Pourquoi fermez-vous les yeux sur les risques de sécheresse? Pourquoi fermez-vous les yeux sur la dégradation qui est chez vous ou qui se passe ailleurs? Pourquoi fermez-vous les yeux sur le fait que chaque hectare de terre dégradée, ce sont des populations qui sont ainsi enchaînées dans la pauvreté, enchaînées dans l'insécurité alimentaire? Et on sait que les en sortir est un investissement, pas seulement pour eux, mais pour nous. Si c'est de la charité pour eux, alors c'est aussi de la charité pour nous. D'où la nécessité pour la communauté internationale de comprendre que nous avons suffisamment été irresponsables en laissant les terres se dégrader et chaque fois en allant chercher de nouvelles terres, en abattant nos forêts. C'est ce que nous avons fait. C'est ça qui a fait dire à Chateaubriand que les forêts précèdent les civilisations et les déserts les suivent. Le temps est venu de changer ce vieux paradigme. Et la décision, l'engagement pris par les chefs d'État et de gouvernement à Rio de neutraliser la dégradation des terres est une première étape. Parce que juste après, il va falloir régénérer plus de terres qu'on en dégrade. Parce qu'il y a des millions de kilomètres carrés de terres dans le monde qui portent les stigmates de la désertification. Et on peut et nous devons faire en sorte que non seulement cela soit arrêté, mais que ce processus-là soit renversé.
Alors vous parlez justement des opinions publiques qui peuvent interpeller leurs dirigeants. Apparemment quand même aujourd'hui, vous parlez de l'Europe, l'Angleterre, l'Allemagne, on pourrait parler de l'Europe du Sud aussi, ou même la France, où les taux de chômage sont en train de s'envoler. On va apparemment à l'encontre de ces politiques, même si les gens sont sensibilisés. Aujourd'hui, il faut du plein emploi, il faut relancer les industries. Ça va pas tellement dans le sens que vous indiquez. Donc comment on peut arriver à motiver les gens qui sont convaincus de ce que vous dites et en même temps aller dans le sens, à court terme en tout cas, de leurs interrogations et de leurs inquiétudes?
Le changement de paradigme qui est nécessaire pour que nous ayons un développement en harmonie avec la capacité de la nature à continuer à nous nourrir, ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas une charité, ce n'est pas une concession faite à la nature. Quelle que soit notre responsabilité, la nature va s'adapter. C'est nous qui risquons de ne pas nous adapter à notre responsabilité. Et c'est pour cela qu'il est important que nous percevions que la crise économique est une opportunité. Ce n'est pas l'occasion de démissionner, c'est au contraire l'occasion de regarder en face combien l'investissement dans la durabilité est aussi un investissement dans l'efficience économique, l'efficience énergétique, l'efficience agricole et toutes les formes d'efficience. Et ceux qui ne regardent que l'aspect budgétaire, ils ont un réflexe d'apothicaire qui n'est pas un réflexe de bon gestionnaire. Et que les apothicaires ne m'en veuillent pas.
Voilà, et c'est avec Luc Nyakadja, ancien ministre béninois de l'Environnement, qui dirige depuis septembre 2007 le secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, que se referme ce magazine Escale. Un magazine réalisé avec la collaboration de Christina Silvero et de Carlos Macias. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.